n'est pas coutume, ce n'est pas le texte du jour qui guidera notre méditation aujourd'hui, mais ce livre des Proverbes. Tout simplement parce que nous avons commencé à aborder ce livre des Proverbes aux études bibliques et je me suis rendu compte qu'il était très peu connu. Et je voudrais partager avec vous justement quelques textes de ce livre de la Bible. Et je reprendrai donc un certain nombre d'éléments de l'échange que nous avons eu à l'étude biblique, mais aussi d'autres. Peut-être que cela vous donnera envie de nous rejoindre pour aller un peu plus loin dans la réflexion, ou au contraire, que ça vous découragera à jamais du livre des Proverbes. Et si personne ne vient, je dis, ben, je comprendrai qu'il faut changer de sujet. Voilà. J'espère en tout cas ne pas vous décourager totalement parce que c'est un livre de la Bible beaucoup plus intéressant que ce qu'il y paraît. Alors, je vais lire quelques extraits, bien sûr, pas tout le livre des Proverbes. Au chapitre 8, d'abord, les versets 1 à 11. La sagesse lance un appel. L'intelligence élève la voix. Est-ce que vous ne l'entendez pas? Sur les collines qui dominent la route au carrefour des chemins, la sagesse se tient debout. Près des portes à l'entrée de la ville, sur les lieux de passage, elle crie. Vous les humains, c'est vous que j'appelle, je m'adresse à vous. Vous les gens sans expérience, apprenez à avoir du bon sens. Vous qui manquez de sagesse, apprenez à être intelligent. Écoutez bien. Car je vais dire des choses importantes et je vais parler franchement. Oui, je dis la vérité, car je déteste toutes les paroles fausses. Tout ce que je dis est exact. Je ne parle jamais pour tromper, je ne mens pas. Une personne intelligente trouve mes paroles justes. Celle qui est savante les trouve sincères. Choisissez mon enseignement plutôt que l'argent. Préférez la connaissance à l'or pur. En effet, moi, la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux. Je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. Puis je saute un petit peu jusqu'au verset 22 de ce chapitre. Et je vais lire jusqu'au verset 31. Le Seigneur m'a créé la première, avant toutes les autres choses qu'il a faites. Il m'a formé depuis toujours, au commencement de tout, avant que le monde existe. À ma naissance, les mers n'étaient pas encore là. Il n'y avait pas de source remplie d'eau. Je suis né avant la formation des montagnes, avant les collines. À ce moment-là, le Seigneur n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni le premier grain de poussière du sol. J'étais là quand il a posé solidement le ciel, quand il a tracé l'horizon au-dessus des mers, quand il a fixé les nuages d'en haut, quand il a donné leur force aux sources d'en bas, quand il a mis des limites à la mer, quand il a commandé à l'eau de ne pas les dépasser, quand il a placé les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais là, près du Seigneur, comme un architecte. Jour après jour, je lui donnais de la joie. Je jouais sans cesse devant lui. Je jouais sur le sol de la terre qu'il a faite. Et je trouve ma joie parmi les humains. Et puis au chapitre 3, le passage qui sera plus particulièrement celui de notre méditation, les versets 13 à 20. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que des bijoux. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie aux humains, elle leur offre richesse et honneur, elle les conduit sur des chemins agréables et ils peuvent y marcher tranquillement. La sagesse est comme un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source du bonheur pour ceux qui la possèdent. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse et le ciel est établi par son intelligence. Par sa science, L'eau qui est sous la terre jaillit et les nuages laissent tomber la pluie. Je vous invite à prier. Pour que ta parole, Seigneur, résonne en nos existences comme de véritables paroles venant de toi, pour que cette sagesse puisse transformer nos vies, les tourner vers les autres et vers toi, pour que cette sagesse puisse ordonner nos vies et leur permettre harmonie et bonheur, nous avons besoin de l'aide de ton esprit. Parle-nous ce matin, Seigneur. Amen. Et non, nous chanterons après. Je croyais que j'avais choisi un cantique là pour maintenant, mais je vois qu'il y en a que deux, donc j'ai pas dû en choisir un pour maintenant. La sagesse, donc, crie dans les rues, elle élève la voix sur les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Cette affirmation est répétée plusieurs fois dans le livre des Proverbes. Comme pour insister, il n'y a pas de lieu déterminé pour la sagesse. Il n'y a pas non plus d'espace qui lui soit réservé, pas même l'espace religieux. La sagesse est partout où il y a des hommes et des femmes. Elle crie dans les rues et sur les places, c'est-à-dire dans tous les lieux publics, tous les lieux de la culture où circule une parole. Elle concerne autant les croyants engagés que ceux qu'on appelle les croyants non pratiquants, ou même les non-croyants, ou les croyants d'autres religions. Elle concerne tout le monde. La sagesse des Proverbes, excusez-moi, est d'abord, avant tout, et c'est pour ça qu'elle concerne tout le monde, un art de bien vivre, un bon sens populaire qui touche toutes les sphères de l'existence humaine. Tenez, je vous lis par exemple quelques extraits du chapitre 6 sur le travail. Va vers la fourmi, paresseux. Ça fait penser à quelque chose. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Il est évident, avec ce texte comme avec tant d'autres, que nous ne sommes pas loin de notre sagesse populaire à nous, de notre sagesse populaire française. Si le sage avait collecté des proverbes chez nous, il y aurait certainement inclus la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, et elle se trouverait, la fable se trouverait peut-être là, ou en tout cas une partie. Et on pourrait dire exactement la même chose de la sagesse africaine ou de la sagesse orientale, puisque dans toutes les cultures, on trouve des proverbes qui disent qu'il est plus avantageux de travailler que de ne pas travailler. C'est quelque chose d'assez universel. La sagesse ne se cantonne donc pas au texte biblique. Elle peut se trouver ailleurs. Et cette sagesse populaire, art de bien vivre, en se rapprochant tellement de nos dictons, proverbes et autres fables, détruit les barrières qui, éventuellement, séparerait la pensée biblique de la vie quotidienne. Et cette sagesse s'applique à tous les domaines de l'existence. Si elle touche tous les humains, c'est aussi tous les domaines de l'existence. Il n'est aucune sphère de la vie dont le sage ne parle pas. La sagesse s'exprime dans le domaine social, par exemple. Elle traite des questions d'argent, d'économie. Je cite encore, « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui retient le blé, sous-entendu pour faire monter le prix, en période de disette, est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Un verset contre la spéculation. Elle donne des conseils pour ne pas avoir d'ennui et vivre tranquillement, et invite à la prudence sur des questions toujours actuelles, sur comme se porter caution pour quelqu'un, par exemple. Et je cite à nouveau, « Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, ou peut s'en trouver mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. » On connaît ça, hein. Elle porte des jugements aussi sur la politique de l'époque. Nous, on n'ose pas trop, quelquefois, mais là, l'auteur des Proverbes, il osait. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un certain nombre de proverbes dénoncent aussi la corruption. Ça, il y en a beaucoup. Un roi affermit le pays par la justice, dit-il, mais celui qui accepte des présents le ruine. Ça mérite d'être médité encore aujourd'hui, ça. Et ainsi, les proverbes comportent un nombre incalculable, enfin en tout cas je ne l'ai pas calculé, ça doit être calculable, de préceptes moraux quasi universels. Et personne ne refuserait de souscrire à des conseils comme « Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. » Bien sûr, donc, tout le monde ne peut qu'adhérer à ce genre de proverbes. Mais les proverbes, ils ont été rassemblés par des hommes, je veux dire des mâles, pas simplement des humains. Et il y en a de nombreux sur les femmes, dont un certain nombre pas très agréables, c'est vrai. Mais on ne peut pas ne pas les citer. Un anon d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Ou les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Mieux vaut habiter une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mais on ne dit pas la même chose de l'homme, parce que les hommes, ceux qui ont collecté, voilà. Mais il y en a de très positifs quand même. Et à la fin du livre des Proverbes, comme pour se racheter, il y a ce poème extraordinaire dans lequel la sagesse est personnifiée par une femme. Et là, on peut y lire que la femme vertueuse a beaucoup plus de valeur que toutes les perles. Donc ça permet de se racheter de tous les proverbes culturellement très marqués par l'époque. La sagesse se mêle vraiment de tout. Et avec ces proverbes, elle ouvre pour nous les portes d'une éthique populaire, simple, apparemment sans grandes conséquences spirituelles et religieuses, mais permettant de mener une vie sociale de façon harmonieuse et heureuse. Et ce bon sens populaire doit permettre d'éviter un certain nombre de pièges de l'existence. Croyants engagés, croyants moins engagés, croyants d'autres religions et même non-croyants peuvent se retrouver dans cette sagesse populaire. Mais s'il est vrai que la sagesse des proverbes est cet art de bien vivre, cette sagesse populaire, elle ne se limite pas à cela. Et en proclamant que la sagesse est arbre de vie dans ce chapitre 3 du livre des proverbes ou ailleurs source de vie, les proverbes nous laissent entrevoir que ce bon sens populaire n'épuise pas le sens de cette sagesse. L'arbre de vie est un symbole très fort dans la Bible, vous le savez. Dans le jardin d'Éden, au tout début de la Bible, l'arbre de vie représentait Dieu, auprès duquel l'homme devait venir chercher sa nourriture spirituelle tous les jours, sous peine de mourir, c'est-à-dire d'être séparé de la source de la vie, séparé de Dieu. Et ensuite, l'humanité est placée sous le signe de la distance qui la sépare de cette vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'arbre de vie revient à la fin de la Bible, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, qui nous annonce que dans la Nouvelle Jérusalem, cet arbre guérira les maux de toutes les nations et sera un accès libre pour tout le monde. Cet arbre de vie, en fait, c'est Dieu pour nous. Dieu tel qu'il se révèle à nous. Dieu en tant qu'il se communique et se donne aux humains. Et la sagesse apparaît alors, ici, dans ce texte, comme ce qui peut combler cette distance qui nous sépare de la vie de Dieu, de la vie avec un V majuscule. Nous sommes là, nous le voyons bien, dans un domaine qui va beaucoup plus loin que le bon sens et la sagesse populaire. Car la sagesse, c'est tout simplement Dieu lui-même. C'est Dieu en tant qu'il est créateur et présent dans le monde, dans la vie des hommes, jusque dans les moindres détails. C'est cette présence mystérieuse et cachée de Dieu dans l'humanité. Là est le sommet, le cœur de la sagesse des proverbes. La sagesse est arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et c'est cette même sagesse qui est donc présence de Dieu en nous, présence de Dieu dans le monde, mais aussi cet art de bien vivre qui donne à notre vie l'harmonie à laquelle elle aspire. C'est la même. Pour la sagesse des proverbes, il n'y a aucune rupture, donc, entre le domaine de la foi, de la spiritualité, où Dieu communique sa vie à l'humanité, et celui de l'éthique, où il nous donne des éléments qui nous permettent de prendre des décisions concrètes dans nos existences. Et en ce sens, la sagesse des proverbes est une véritable dynamique missionnaire, sans aucune rupture entre le domaine de la foi et celui de la vie, où nous découvrons les multiples implications de cette mission de Dieu pour le monde, où nous sommes appelés à témoigner d'une foi, mais aussi à intervenir, nous aussi, dans tous les domaines de la vie. La sagesse des proverbes, c'est un véritable projet d'Église et de société. Amen.